À Pléliac, dans les Côtes-d'Armor, Fanny Bertrand élève un troupeau de bufflones laitières depuis 2017. Son exploitation est en agriculture biologique et compte 48 hectares, entièrement implantés en herbe. La plus grande majorité du lait est transformée à la ferme. Fanny fabrique notamment du fromage frais ou encore des yaourts. Dans cet épisode, elle nous explique les coulisses du métier d'éleveuse de bufflones.
Bonjour Fanny.
Bonjour Alexis.
Comment tu vas ?
Ça va.
Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter et expliquer un petit peu où on est ici ?
Alors ici, on est à la ferme du Clos Duval, à Pléliac. Je me suis installée le 1er mai 2017 pour un élevage de bufflones laitières avec transformation des produits laitiers à la ferme.
Okay.
C'est une reconversion professionnelle pour moi et je me suis installée hors cadre familial.
D'accord. Et donc avant, tu faisais quoi ?
J'étais monitrice d'équitation.
Ok. Donc, tu as fait ça pendant combien de temps ?
J'ai fait ça pendant 5 ans.
Est-ce que tu peux présenter ton exploitation ?
Alors, je suis en bio. Faut savoir que l'exploitation est en bio depuis 1993. C'était pas en bufflone, hein. C'était en veau de lait bio sous la mer. J'ai commencé avec 28 hectares. Et depuis octobre l'année dernière, je suis à 48 hectares.
Ah oui. T'as récupéré des terres autour de la ferme
à 5 km. À 5 km, j'ai récupéré 20 hectares en bio également, un départ en retraite.
D'accord.
Et l'intégralité de mes terres sont en herbe.
Et niveau cheptel ?
En tête, j'ai une cinquantaine de têtes et j'ai 28 mères et un taureau reproducteur.
D'accord, ouais. Et donc tu travailles toute seule ?
J'ai travaillé toute seule jusqu'en 2020. Et depuis 2020, j'ai Daphné, qui est une ancienne stagiaire et qui n'est jamais partie de la ferme, en fait.
Et donc, je reviens sur ton assolement, donc toute herbe, toute prairie temporaire ou...
Rotation longue durée, on va dire.
D'accord.
Okay. Ouais, non, j'ai des parcelles qui ont 10 ans et les parcelles les plus récentes, elles ont 3 ans, 4 ans, 3 ans. Et en fait, vu les années qu'on a eues dernièrement et que j'ai un sol, j'ai des sols très humides et très froids, donc en fait, bah, avec les printemps et les étés qu'on a, je peux plus semer des prairies en printemps. Et quand c'est le moment de travailler le sol, bah, mes sols, c'est de la boue. Donc voilà. Peut-être que cette année, avec la météo, je vais peut-être pouvoir refaire quelques parcelles, mais on verra.
Et tu les implantes en quoi ?
Le classique basique, hein, c'est régras anglais, régras italien, trèfle, fétuque, ouais.
D'accord.
C'est dans 10 ans, je serai à fond sur la qualité de l'herbe.
Okay.
Là, je suis à fond sur les bufflones, la gestion des comportements, parce que c'est très compliqué d'un point de vue comportement et physiologie, comment fonctionne une bufflone. Et je me focalise vraiment là-dessus. Et quand je maîtriserai ça, je partirai un petit peu plus. On ne peut pas tout maîtriser.
Ouais.
Voilà. C'est pour ça que le métier d'agriculteur est hyper passionnant. C'est que quand on a acquis quelque chose, il y a toujours autre chose à acquérir. Quoi.
C'est clair.
Donc, toute personne curieuse et motivée, il y a toujours des choses à apprendre.
Mmh. Et justement, est-ce que tu peux... Donc, c'est des bufflones d'Asie,
oui,
que tu élèves. Est-ce que tu peux brosser dans les grandes lignes les caractéristiques de cette race-là ?
En fait, j'avais même fait un dicton avec des bufflones. C'est observation, patience et courage. C'est le dicton à avoir pour travailler avec des bufflones.
C'est beau.
Il faut beaucoup observer parce qu'elles ont un... Bah, moi, venant des chevaux, et mes derniers, bah, à la fin, j'étais très dans le comportementalisme qu'il y a. Et en fait, bah, le bien-être animal et le bien-être de l'éleveur passe aussi par la compréhension de ce qui se passe dans les liens sociaux.
Mmh.
Et je me suis beaucoup... et j'en apprends encore tout le temps sur les relations qu'elles ont entre elles, les relations qu'elles peuvent avoir avec moi. Donc comprendre, bah, et puis elles sont tellement têtues, il ne faut pas les braquer, mais il faut leur faire comprendre qu'il faut aller là et tout ça. Donc, c'est tout un art.
Ok.
Donc voilà. Donc c'est pour ça, observation, la patience, parce que ben, j'apprends, quand j'ai des stagiaires, règle numéro une, les animaux nous font toujours mentir.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que tu dis, ouais, mais c'est bon, ça va être facile, en 10 minutes c'est bouclé.
Ah oui, d'accord.
Tu en as pour une heure. Oh, celle-ci, elle est vraiment agaçante, elle va nous embêter. Eh bien, ça va prendre 2 minutes.
Okay.
Voilà, règle numéro une, les animaux nous font toujours mentir.
Okay.
Il faut s'adapter. C'est, voilà, il faut avoir, quand je dois trier les troupeaux ou que j'ai quelque chose à faire, je m'y prépare une semaine en avance dans ma tête et j'ai 4 plans le plan A, le plan B, le plan C, le plan D. Si le plan A fonctionne pas, on passe sur le B. Voilà, faut toujours s'adapter et tout ça. Et c'est ça que j'aime en fait avec ces animaux-là. Et c'est pour ça que je m'entends bien avec elle aussi. C'est que voilà, c'est que des compromis et il faut jouer avec leur caractère, avec leur humeur du moment. Et
okay. Super agréable. Ouais, c'est un caractère fort comme, ah ouais. comme animal.
Ouais, bah en fait. C'est pour ça que je m'amuse souvent à comparer qu'un troupeau de bufflons, c'est un mélange entre une cour de récréation de maternelle et une colonie d'adolescentes. Non, c'est-à-dire que les copines, les machins, donc il y a des liens entre elles. Il y en a qui ne peuvent pas du tout se piffrer, il y en a qui sont super copines. Après, quand tu leur proposes quelque chose, c'est comme une colo d'adolescente. C'est nul, c'est pas vrai. Et quand tu leur donnes à manger, par exemple, ou tu leur apportes une nouvelle nourriture qu'elles n'ont jamais goûtée avant, enfin, c'est pas bon. Ah comme ouais. un classe, ouais. Okay. Voilà. C'est les chamailleries, les non, j'ai pas envie, ouais, machin. Ouais.
Il faut être très patient.
Ouais.
Et dans des interviews que tu as déjà données, tu compares le caractère des bufflons avec des chevaux.
Ouais.
Et pas tant avec des vaches, en fait.
Non, parce que la vache, en fait, c'est pour ça que je suis partie sur la bufflonne aussi. C'est que la vache, je trouve qu'elle n'a pas de caractère, elle suit son truc et il n'y a pas de réflexion. Même les gens qui se promènent, parce que le chemin qui traverse mes parcelles est un chemin communal. Et quand je croise les gens qui marchent, ils me font, on se sent vraiment observés. Mes bufflonnes, elles observent toujours l'environnement, elles interagissent toujours avec leur environnement. On ne sait pas comme les vaches qui te regardent, comme on dit, une vache qui regarde un train. Une bufflonne, il y a un parapluie, tout ça. Enfin, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe voilà, on va aller les voir tout à l'heure. Ouais. Tu vas voir, l'œil, il y a de l'intelligence, tu vois que ça réfléchit. Tu tapes sur une bufflonne, ça n'avance pas. Hein.
Ah ouais.
Ah, le mutisme. Non, faut l'apprendre autrement. Quoi.
Ok. Et tes années d'expérience dans les chevaux, ça t'a aidé
énormément. Bah, c'est pour ça que je suis énormément dans le comportement. Et en fait, moi, je sociabilise le plus possible mes veaux dès la naissance, où je passe un peu de temps avec eux. Et c'est là où je dis, ça se rapprochait beaucoup aux chevaux. Un cheval que tu laisses dans un fond d'un champ et que tu y vois jamais rien et tu fais jamais rien avec lui, c'est un animal sauvage qui va partir en va rapidement partir en panique ou des choses comme ça. Alors que mes bufflons, j'essaie de faire le plus de choses, Elles voient du monde. Mes bufflons, ils sont dans des cases où il y a beaucoup de mouvements, des tracteurs, des machins, les chiens et tout. Et ça fait que j'ai des animaux qui sont relativement calmes.
D'accord.
Mais elles font toujours un caca nerveux à un moment ou à un autre. Mais elles sont quand même plus faciles à approcher. En fait, si on n'en demande pas grand-chose, ça se passe très bien. Et des fois, quand... la prophylaxie. La prophylaxie. C'est les prises de sang sous la queue. Mesdames ont horreur des piqûres. J'ai de la chance, j'ai des super vétos, des jeunes vétos qui sont motivés et qui sont sportifs. Et parce que dans n'importe quel troupeau, ça mettrait quoi, une demi-heure? Non, mais 2h30.
Et comment ton troupeau est conduit en termes... l'alimentation, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Oui. Alimentation, logement...
Alimentation, donc du coup, c'est herbe. L'été, c'est herbe et foin pour les laitières. L'hiver, c'est foin et pour les laitières, un complément de céréales.
D'accord.
Et des céréales que j'achète aux voisins, que je fais broyer à la ferme.
C'est du métail
C'est du métail, ouais. D'accord. Donc avec une assez grosse partie en protéines, donc tout ce qui est févrole et pois, très peu de triticale et orge.
D'accord.
Et puis je fais venir un prestataire qui vient broyer ça à la ferme.
Ok. Et donc elles sont en stabule l'hiver?
Alors moi je suis en air paillé intégral, donc ça veut dire que j'ai 250 mètres carrés d'air paillé pour... j'ai jamais mis 30 bufflons en même temps dedans, mais je peux en mettre 30. Et je laisse toujours un petit accès extérieur, parce que justement, ce que je disais, c'est que les relations entre elles étaient assez puissantes, et les liens dominants-dominantes sont très forts, et peuvent être violents. Donc du coup, elles ont toujours un micro-accès en extérieur pour les dominer, pour qu'elles puissent sortir du bâtiment. Parce qu'au départ, moi je les enferme jamais dans le bâtiment sans surveillance, parce que je sais que la dominée du troupeau, elle va se retrouver dans un coin, et elles seront cinq dessus, quoi.
Ah ouais.
Elles sont, en fait, c'est un peu comme les piranhas, c'est plus l'espace vital de l'animal est réduit, plus elles deviennent agressives entre elles.
Et niveau reproduction, c'est de la monte naturelle?
Ouais. ils se débrouillent entre eux. Je dis chacun son métier. En repro, je sais qu'en Italie, ils font de l'insémination. Ouais. Mais franchement, les chaleurs de bufflon, c'est très difficile à détecter. Hein. Ouais. Moi, des fois, j'en vois qui sont en chaleur parce que le taureau s'occupe d'elle et qu'il est tout le temps derrière elle. Ouais. Et même, j'en vois... Ça se passe souvent la nuit. Ils sont très pudiques. Les naissances, la nuit. Les saillies, ça se passe la nuit.
Ah ouais.
Oui, ils sont très pudiques. Il y en a, je n'ai jamais vu le buffle s'occuper d'elle. Et elle vèle en temps et en heure. Et j'ai jamais vu le buffle s'occuper d'elle. Bon, après, je ne suis pas H24 non plus dans les bâtiments, mais ouais, ouais c'est...
Voilà, la gestation, c'est combien de temps ?
10 mois et demi.
10 mois et demi.
Et 9 mois de lactation, c'est l'inverse d'une vache, en fait. Et encore, comme je te disais, c'est si ces animaux sont tellement proches de leur état sauvage et de leur survie, personnelle, que si elles sont réinséminées dans le premier mois post-vélage, elles font une lactation de 7 mois. Parce que d'office, elles s'offrent 4 mois. En fait, quand elles arrivent à un stade de la gestation, eh ben, d'office, elles coupent le lait pour donner l'énergie au futur bufflon.
D'accord.
Et pas être sur les deux à tirer en même temps. Quoi.
Okay.
Donc, des fois, ça m'arrive d'avoir des lactations de 7 mois parce que, bah, comme tout le monde n'a pas les mêmes cycles et tout ça, et enlever le taureau, remettre le taureau, c'est un peu compliqué des fois aussi. Donc, bah, voilà. Des fois, il en fait un peu trop tôt. Mais après, je sais que du coup, bah, je regagne derrière parce qu'elles révèlent un peu plus tôt qu'elles ont un intervalage de 11 mois, 11 mois et demi, au lieu de 12 mois ou 13 mois. Quoi.
Ok. Et ça révèle facilement ? Tu as besoin d'intervenir ?
Non. J'ai dû intervenir vite fait, 2 fois.
Ah oui.
En 6 ans, et encore c'était sur des primipares, donc dès que c'était leur première fois, parce qu'elle commençait à fatiguer, donc j'ai juste pris les petites cordelettes et puis je tire un petit peu dessus. J'ai même pas pris de velleuse ou quoi que ce soit. Il y a juste ça.
D'accord.
Et ça se débrouille tout seul.
Okay.
Et puis les 3/4 du temps, c'est la nuit.
Oui.
Donc au départ, j'ai fait. Je me levais, hein, puis au bout d'un moment, j'ai compris que ça servait à rien.
Elle
se débrouille. Ça fait en 20 minutes.
Ah ouais.
Eh non, mais c'est un truc impressionnant. Ça, les génies, ça met du temps. Mais alors, dès qu'elles sont multipares, mais en 20 minutes.
Ah ouais, c'est dingue.
Tu vois, une poche, deux pattes, tu reviens, le veau est là.
Ok.
Okay.
Et donc, les veaux, tu gardes les femelles et tu vends les mâles
Alors, les mâles, ben, comme il n'y a pas de filière qui existe pour la viande de buffle, ce qui est bien malheureux parce que c'est une viande qui mériterait d'être connue. Les jeunes mâles, je les élève à la ferme avec du lait de bufflon et je les fais abattre tôt, vers 3 mois et demi, 4 mois. Mais je sors quand même dans les 90-100 kilos de carcasse à cet âge-là. Qu'est-ce qui est mieux, d'avoir une vie courte et belle ou une vie longue et chiante ? Donc, ils sont bien chouchoutés. Bah, je ne sais pas si tu les as aperçus dans le champ en arrivant.
Oui,
là.
Si, ouais.
Donc, tu vois, à 15 jours, c'est dehors en troupeau. Bon, pas l'hiver. Mais à cette période-là, tout le monde est en troupeau, dehors, à l'herbe. Ils ont la belle vie en copain.
Ouais.
Mais elle est courte. Et la viande est bonne, du coup.
Et tu vends la viande
en caissette. J'y vends. En fait, je fais des pré-réservations en caissette.
Mm-hmm.
Donc, je bosse avec l'abattoir de Quintin.
D'accord.
Qui abat, qui découpe, qui fait la mise sous vide des caissettes. Et après, moi, les clients reviennent les chercher le 1 jour J à la ferme.
Et la traite, donc, comment... Déjà, au niveau de la production laitière.
Alors, moi, j'ai une moyenne de troupeau. Je suis à 7 litres en moyenne par jour. Donc, j'ai quelques bufflons. Celle-là, c'est mes Formule 1. Elles sont à plus de... J'en ai une à 14 litres. Et en plus, elle est top. Et autrement, j'en ai quelques-unes à plus de 10 litres. Et autrement, la majorité, c'est du 6 litres, quoi.
Donc, ça fait beaucoup moins de lait qu'une vache, mais du lait beaucoup plus gras, c'est ça ?
Ouais. On tourne dans les 75-80 en matière grasse, donc grammes par litre de lait.
Ouais.
Et en protéiques, dans les 40-45. Et encore, moi, je ne pousse pas l'alimentation de mes bufflons, donc ça peut monter encore plus haut. J'ai une alimentation assez pauvre, parce que c'est des vieilles prairies, en plus des mauvaises terres, donc je ne refais pas mes parcelles régulièrement.
Ouais.
Et du foin classique, il n'y a pas d'enrubané, il n'y a pas de luzerne.
Okay.
C'est assez basique.
Et la traite donc,
matin et soir.
C'était une salle de traite
J'ai une salle de traite tandem.
Ok.
2x3 tandem. Et le démarrage est compliqué, puis une fois qu'elles ont compris, ça se passe bien.
Et donc, tout ton lait est transformé ?
L'intégralité de mon lait. J'ai la boulangerie de Plédéliac, qui est passée à la meilleure boulangerie de France d'ailleurs, qui fait du flan au lait de bufflon. Ah ouais, moi je l'ai tanné pendant un moment. Parce que justement, en fait, tout le monde nous parle bufflon, mozza. Le stéréotype.
Oui.
Et moi, j'aime pas les stéréotypes. Mais déjà, j'ai fait la Biflone, c'était pas pour faire comme tout le monde. Le lait de Biflone est extraordinaire. Tout le monde pense que la Biflone n'est capable de faire que la mozza. Et c'est pour ça que j'ai une gamme de 5 produits laitiers. Là, on a un nouveau boulanger, un jeune couple depuis 2 ans. Et je les ai tannés un moment pour qu'ils fassent un produit au lait de Biflone. La boulangerie de Plédéliac, elle est à 500 mètres de la ferme. On peut pas faire plus local.
C'est vrai.
Et du coup, il a lancé le flan au lait de Biflone. Et ça tourne super bien.
D'accord.
Ouais, il a commencé la commercialisation en fin avril. Il a déjà vendu plus de 1000 flans.
Ah oui,
quand même.
Ça plaît, ouais.
C'est bon. Le lait de Biflone, c'est bon. Et c'est pour ça, voilà, c'est le lait de Biflone. C'est pour ça que j'ai lancé les yaourts rapidement. La mozza, c'est un produit saisonnier. Et puis, c'est le gros cliché. Et puis, c'est un fromage qui est très, très compliqué à faire.
Mais tu en fais quand même.
Ah oui, j'en fais.
Oui.
Bon, oui. Bah, autrement, les gens ne penseraient pas à moi.
Oui.
Ce que j'appelle mon produit d'appel.
Ouais, c'est la porte d'entrée.
Voilà.
Après, ils découvrent. Ouais. Tu fais du fromage à tartiner, fais des yaourts.
Les yaourts, fromage blanc, la tome. Je vais essayer de sortir un 6e petit produit avant la fin de l'année. Bah oui, une fromagerie, c'est pas fait que pour de la mozza. Puis même moi, c'est plus agréable d'avoir une gamme variée. Puis voilà, le lait de Biflone. En ce moment, la grande mode, c'est le camembert au lait de Biflone. Là, il y a plein de gens qui commencent en train de sortir. Bon, ça, j'en ferai pas. Je laisse les autres le faire. Parce que le camembert, c'est un fromage technique aussi. Donc, j'ai la mozza qui est très technique, la tome qui est assez technique. Donc, après, faut pas. Voilà. Vu toutes les casquettes que j'ai, faut pas que je me lance dans des choses trop, trop pointues non plus. Quoi.
À l'année, c'est quoi le volume de fromage ou de.
Alors, l'année dernière, j'ai transformé 14 000 litres de lait. D'accord. Mais 14 000 à cause de la sécheresse. Normalement, je devais faire plus.
C'est quoi tes futurs objectifs ou des évolutions sur la ferme ?
Alors, objectif, c'est de continuer à augmenter mon volume de production. Okay. Donc ça, c'est tous les ans. J'avance petit à petit.
Donc en augmentant le cheptel ?
Ou en augmentant... Non, en fait, là, j'ai eu du mal à constituer un troupeau qui passe bien en salle de traite. Maintenant, mon troupeau passe bien en salle de traite. Donc, je peux au stade suivant, c'est que je vais commencer à garder que j'aurai de moins en moins de Biflone à 6 litres, quoi. J'aurai plus des Biflone... Ouais. Je vais essayer d'augmenter mon quota de Biflone à 10 litres, quoi.
Okay.
Donc, voilà, c'est ma petite sélection au fur et à mesure. Mais mes petites mamies à 11 ans qui bossent bien, bon, c'est pas des grossetières, mais qui m'embêtent pas à tout ça, je vais les garder jusqu'à la fin de la carrière, quoi.
Okay. Et niveau main-d'œuvre, tu restes
Non, va falloir que j'augmente, mais c'est pas la quantité de travail qui manque. C'est plus faut pouvoir payer un salarié et c'est un gros budget.
Ouais.
Donc c'est ça mon facteur limitant pour l'instant, quoi.
Ouais, donc d'où l'objectif d'augmenter aussi la production.
Voilà, c'est pour ça, quand je te dis, j'ai encore 25 ans, faut pas l'oublier.
Je reviendrai dans 25 ans.
Mais voilà, ça progresse gentiment, un peu trop gentiment par moment, mais j'y vais progressivement. Je suis pas du genre à investir plein de trucs dans tous les sens j'avance gentiment. Comme mes Biflone, j'ai une longue carrière, on avance gentiment et on prend le temps de bien valider les choses.
Okay.
Et pas précipiter les choses.
Parfait. Merci beaucoup pour l'échange.
Mais de rien.
On va voir les Biflone maintenant. Moi, j'avais passé une heure à gratter les chiens.
Tu vas pas gratter les Biflone maintenant.
Bah, ouais. Merci beaucoup, Fanny.
Mais de rien. Bonne journée.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcasts et Spotify. Et vous pouvez partager cet épisode autour de vous. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans le PBcast, dites-le nous en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux du journal. À dans un mois !